Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
À 7h41, nous sommes en compagnie de Gilles Kepel. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Vous animez à l'ENS, puisque c'est une journée en partenariat avec l'École normale supérieure, le séminaire Violence et Dogme. En face de vous, Frédéric Worms. Bonjour, vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Qu'est-ce que cela signifie ? Pensez le 11 janvier pour vous, Frédéric Worms.
Penser le 11 janvier, ça veut d'abord dire penser aujourd'hui, où nous sommes le 11 janvier, et ça veut aussi dire penser ce que signifie le 11 janvier depuis un an. C'est une date qui est devenue symbolique, et le problème avec les symboles, c'est qu'ils peuvent paraître figés. Là, c'est le symbole d'une date qui représente beaucoup de choses, plusieurs émotions contradictoires déjà, une émotion de reprise, de relance avec une manifestation face à des attentats. Et donc, je pense qu'il faut dépasser ce symbole, cette émotion figée, et comprendre qu'elle est déjà contradictoire. Mais penser aujourd'hui, ça voulait déjà aussi dire penser à ce moment-là. Moi, j'ai jamais pensé que le 11 janvier, si j'ose dire, pensé justement que le 11 janvier était une manifestation simplement affective, simplement unitaire. Elle l'était, mais les gens à l'intérieur étaient déjà divisés, plus qu'on ne pensait. Ceux qui n'y étaient pas, ceux qui ne sont pas allés défiler, ne formaient pas un bloc non plus. Et l'esprit du 11 janvier dont vous parliez, pour moi, a toujours été un esprit critique, tout en étant dans l'unité. Et donc, il y avait déjà la pensée à ce moment-là. Il faut qu'elle soit encore là aujourd'hui, en respectant aussi la force de ces dates, de ces symboles, du 11 qui est pris entre plusieurs autres dates, déjà en janvier, du 7 au 14, comme dit Patrick Boucheron, et puis évidemment tout ce qui s'est passé entre-temps.
Qu'est-ce qui réunissait alors ces marcheurs, selon vous ?
Pour moi, il y avait évidemment une unité, hein, un geste fort, un « nous » qui se reprenait autour de principes. C'est quand même des principes, c'est-à-dire que l'attentat contre Charlie, c'est d'abord un attentat contre des êtres vivants, mais aussi des êtres vivants qui défendaient des principes. Non pas seulement tel ou tel contenu, tel ou tel rire, mais la liberté d'expression, des principes dont on réalise quand ils sont atteints, à quel point ils nous font tenir, et quand ils sont atteints, on les défend. Et donc il ne faut pas s'étonner si maintenant, après la défense, au fond, le geste de se lever, il faut les rediscuter, mais les repenser, penser ceux qu'ils permettent, mais vraiment aussi les défendre.
C'est une journée qui a donné naissance à de nombreux symboles. L'un des symboles, le dernier, c'est celui de la déchéance de nationalité. On parle d'une mesure symbolique. Vous nous direz, sur le plan philosophique, ce qu'est pour vous un symbole, même si la déchéance de nationalité ne se réduit pas évidemment à un symbole, Frédéric Worms.
Ouais, je dirais pas que la déchéance de nationalité symbolise le 11 janvier, ce serait un peu réducteur pour le 11 janvier surtout, qui symbolise un certain nombre de choses, et moi le geste que je retiens c'est plutôt le stylo levé, c'est-à-dire la capacité de discuter, y compris de cela, et la capacité de débattre, à la limite qu'on débatte de cette question comme d'autres, et de la manière profonde pour laquelle elle fait problème, qu'on n'envoie pas le problème bouler, voilà ce que signifie penser virgule le 11 janvier, c'est-à-dire penser même le 11 janvier, penser même dans les principes communs.
L'autre symbole, l'autre cérémonie, car il y a eu énormément d'hommages, il y a eu des commémorations. Vous y étiez hier, Gilles Kepel, à La République.
Oui, il n'y avait quasiment personne, l'après-midi d'ailleurs, et je crois que ça montre aussi une espèce de, je ne peux pas dire de lassitude, mais la limite de l'exercice de la commémoration comme telle, alors que quelque chose d'autre s'est passé entre-temps, qui a remis en perspective le 11 janvier à nouveau frais, d'une certaine façon, à savoir ce qui s'est passé le 13 novembre. Et tout ce qui avait été fait pour inscrire le 11 janvier comme un moment symbolique fort, avec toutes les contradictions à l'intérieur de la manifestation qu'a pointé Frédéric Worms et qui a donné lieu à toutes sortes de réflexions et d'essais, dont celui avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, mais qui existe d'Emmanuel Todd, par exemple. Je crois que tout ça a été mis dans une autre logique avec ce qui s'est passé au mois de novembre, parce que ça oblige à penser la dynamique à proprement parler de Daesh. Qu'est-ce que ce mouvement a voulu faire en trappant la société française? De quelle manière celle-ci a réagi aussi? Et ça me semble un élément très important. Peut-être la réflexion la plus importante, c'est pas tant sur Daesh, dont on arrive petit à petit à déconstruire les logiques, hein, en le mettant en perspective, mais plutôt qu'est-ce que la société est capable de produire dans sa révolte, sa résistance au terrorisme, et quelles sont les modalités qu'elle utilise. Et en ce sens, se pose la question justement de la déchéance de nationalité que vous venez de soulever. Est-ce que c'est la bonne réponse, alors même que peut-être plus encore après le 13 novembre qu'après le 11 janvier, on a eu un véritable sentiment d'unité de la nation autour d'un certain nombre de principes fondamentaux. Faut-il désormais donner le sentiment qu'on la clive, du moins qu'il y a deux catégories de nationaux? Je crois que c'est un gros débat, un débat qui aujourd'hui traverse la gauche, traverse la majorité, traverse la société. Et peut-être que justement, c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente initiative d'inviter des philosophes, je ne m'inclus pas dedans à en parler aujourd'hui, parce que ça pose des questions sur ce que c'est que l'essence de la nation, qu'est-ce qu'une nation, si j'ose dire, et peut-être est-ce que nos politiques auraient été bien inspirés, pour une fois, mais une fois n'est pas coutume, parler avec des gens qui s'y connaissent un peu avant de prendre des décisions électorales à l'emporte-pièce.
Frédéric Worms, hier, il y eut donc peu de monde aux commémorations Place de la République. C'est compliqué de ne pas surinterpréter un fait comme celui-ci, mais précisément le philosophe que vous êtes, comment fait-il pour penser un manque d'affluence à une cérémonie telle que celle-ci? Cela signifie-t-il que la notion d'hommage, par exemple, est une notion aujourd'hui usée pour ce qui concerne les attentats?
Non, je pense surtout que du temps pur de l'émotion, qui n'a pas disparu, on est entré aussi dans le temps du débat, de la discussion, et que les gens ont peut-être plus envie de ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble ce matin et aujourd'hui, que de remanifester de la même façon l'émotion qui cependant est toujours là. Je pense qu'il ne faut pas mesurer les choses uniquement quantitativement au nombre de gens qui défilent selon la police, selon les médias, selon les touristes, selon les caméras de X ou Y. En réalité, il fallait s'en doute ce moment-là. L'anniversaire est pas forcément... Les dates se marquent, hein, mais les anniversaires sont... Voilà, on va pas forcément aux anniversaires de ses amis, on va pas forcément... Ça veut pas dire qu'on les aime pas, ils font pas forcément des fêtes tous les ans, mais ce qu'il faut, c'est continuer à discuter. Si je peux dire un mot sur la déchéance de nationalité, moi je pense que cette mesure est prise pour des raisons symboliques, mais en effet... ambivalente, complexe, et qu'il faut la critiquer, la discuter de beaucoup de façons critiques, mais en même temps prendre au sérieux ce qu'elle symbolise. Je comprends qu'on puisse, qu'il faille au fond penser la nationalité et défendre une sorte d'attachement à la nation, à la République aujourd'hui. Je crois que cependant l'idée de déchéance de nationalité défend cet attachement et en même temps est une façon de dénier qu'il peut y avoir des divisions internes très profondes. Comme si, dans la nation française elle-même, il n'y avait pas des risques d'attentats, des risques de violence. Et donc, que ceux qui font des crimes extrêmes, bah, il suffit de les mettre dehors et la nation se reforme comme un tout. Or, l'attachement à l'unité, qui est fondamental, passe aussi par la reconnaissance des divisions, y compris de celles qui risquent de briser le contrat social, le pacte républicain. Et donc, pour moi, une forme de déni de la division extrême. Et je crois qu'elle existe partout, y compris parmi les Français qui n'ont qu'une seule nationalité. Qu'il faut affronter ce risque plutôt que d'essayer de le refouler à l'extérieur. Et quand je dis refouler, c'est à la fois sens psychanalytique et politique en un sens. Mais voilà, donc la prendre au sérieux ce qu'elle symbolise, mais peut-être pas effectivement comme la réponse que la chose appelle.
Et au sens philosophique, Frédéric Worms, il y eut évidemment beaucoup de commentaires, une inflation de commentaires, de paroles, de conversations au sujet de ces événements. Comment peut-on distinguer la parole du philosophe de celle, par exemple, du journaliste ou de l'essayiste?
Pour moi, dans un événement grave, quel qu'il soit, un certain nombre de questions surgissent chez l'être humain. C'est ce qui caractérise la vie humaine, c'est qu'il y a des paroles qui surgissent. Et elles ouvrent sur toutes les disciplines des sciences sociales. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a là d'horrible ou de merveilleux? On est déjà dans la philosophie, on demande. On se dit, comment a-t-on pu en arriver là? On est dans l'histoire. On se dit, comment notre société a-t-elle rendu cela possible? On est dans la sociologie. On se dit, d'où viennent ces gens? On est dans la géopolitique. Et donc, en réalité, nous sommes tous des scientifiques, des philosophes, des historiens, des sociologues, commençant. Et je crois que le problème, c'est que ces questions qui surgissent suscitent aussi plusieurs discours concurrents pour y répondre. Dans ces discours concurrents, il y a un certain nombre d'idéologies toutes faites qui veulent répondre à ces questions pour nous. Et aussi bien le journaliste que l'intellectuel, le philosophe, le sociologue, l'historien, cherchent à répondre à ces questions autrement que par un discours préformaté. Et donc pour moi, le journaliste est déjà du côté du sociologue, de l'historien des sciences humaines dont nous portons tous aujourd'hui la parole. Et la différence ne passe pas entre journaliste et sciences humaines, mais peut-être parmi les journalistes, ceux qui vont tout de suite du côté des discours préformatés et ceux qui ouvrent aussi sur des réponses argumentées, réfléchies, méditées, celles des sciences humaines et dans toute leur diversité.
Caroline Fourest.
Oui, il y a du côté de l'analyse, qu'elle soit journalistique ou universitaire, le fait de devoir accepter qu'on ne peut pas expliquer la violence de tel phénomène et la réaction de façon monocausale. Il y a forcément plusieurs causes, mais on ne peut pas avoir un filtre, par exemple, social qui l'emporte parce que sa formation est d'être un sociologue. Voilà, c'est plutôt ça qu'on essaie d'expliquer. Mais juste, je voulais lever un malentendu ou voir si vous le partagez. Je pense que vraiment, l'absence de monde, place de la République, n'est absolument révélatrice de rien, parce que cette commémoration était peut-être la seule fausse note de cette semaine, que le casting n'était pas forcément idéal et que personne ne savait même s'il pouvait venir à cette commémoration avec l'état d'urgence ou pas. Donc je pense que c'est pas un fait réellement révélateur. Par contre, j'aimerais vous entendre sur ce sondage. 76% de Français, toujours Charlie. 90% à gauche, un an après les attentats. Et surtout, certes, entre-temps, il y a eu le 13 novembre qui a certainement fait tenir cette communion. Mais on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de discours essayant de salir, de démobiliser. Et pourtant, les Français sont toujours autant Charlie et 11 janvier.
Alors, avant de répondre à votre question, Caroline, je veux prolonger ce qui a été dit un peu avant par Frédéric et par vous-même sur le rôle justement des sciences humaines. Et comme Frédéric Worms, du reste, moi j'insiste sur l'appellation sciences humaines que je préfère à sciences sociales, en tout cas dans mon usage. Il me semble que justement tout notre travail consiste à éviter les explications que vous appeliez monocausales et à remettre en œuvre ce qu'on appellerait en psychanalyse la surdétermination. C'est-à-dire que, bien sûr, le sociologue a tendance à traiter d'abord des causes sociales, le psychanalyste des causes psychologiques et autres. Et je crois que ce à quoi nous contraint l'année 2015, justement, nous, professionnellement, c'est à essayer de briser les barrières disciplinaires qui nous empêchent de penser à un fait social, si j'ose dire, total, comme celui-ci. C'est le sens, vous avez eu la gentillesse tout à l'heure d'y faire allusion, du séminaire que nous avons mis en place à l'École normale supérieure avec mes collègues Mohamed Ali Amir Moezi, qui est aujourd'hui le meilleur spécialiste du Coran et des textes anciens islamiques en France, et Bernard Rougier, professeur à Paris 3, qui revient d'Égypte, un grand spécialiste du monde islamique contemporain, qui nous permet de rassembler autour du thème violence et dogme, donc les usages du passé dans l'islamisme contemporain, des gens qui viennent d'horizons extrêmement divers. Par exemple, faire en sorte que des spécialistes du conflit entre protestants et catholiques dans la France du XVIe siècle, comme Jean-Marie Le Gall ou Denis Crouzet, soit confronté à quelqu'un qui revient d'Irak et qui a vu comment se structurait le conflit entre sunnites et chiites, des pratiques qui se ressemblent, y compris dans la gestuelle des massacres, dans leur mise en scène, l'apport justement de la psychiatrie, mais qui ne se limite pas à ça, parce que quand, par exemple, on a une explication qui vient à l'esprit tout de suite, pourquoi est-ce que des gens partent à Daesh, parce qu'ils sont malheureux et parce qu'ils dealent du shit au bas des tours. Et là, on se prend dans la figure une explication du pouvoir politique, il y a tout un débat là-dessus. On me dit, mais je n'ai pas compris exactement le complexe que le Premier ministre hier a expliqué, que expliquer c'était déjà excuser. Donc on est dans une logique où on essaye de casser ce type de fonctionnement.
C'est une remarque qui s'adresse plutôt aux sociologues en l'occurrence.
En tout cas, on reviendra là-dessus et on tentera à 8h15 à nouveau avec vous, Frédéric Worms, Gilles Kepel, Caroline Fourest, et puis nous serons rejoints également par des étudiants de l'ENS et par une historienne, Hélène Blais. On tentera à nouveau d'essayer de penser ce 11 janvier.